de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comment écoutez-vous la radio ? Avec vos oreilles ? Très bien. À propos, vient de paraître une histoire de la radio, sous-titre « Ouvrez grand vos oreilles » chez Sylvana Éditorial, Musée des Arts et Métiers, Radio France, à l'occasion d'une exposition au CNAM, précisément, présentée jusqu'au 2 septembre 2012. Toute notre histoire, et la vôtre bien sûr, puisque sans auditeur, pas de radio. Comment écoutez-vous la radio ? Avec vos oreilles, certes, mais avec vos oreilles pour voir. La radio nous fait voir, on le sait bien. La preuve, une série d'émissions consacrées aux cinq sens au cours de l'été 2011 sur France Culture. En voici une consacrée à la vue, œil pour œil, qui était produite par Olivia Muller et Tanguy Blum.
Les cinq sens.
Merci de m'avoir donné la vue. De m'avoir rendu aveugle pour que je voie plus loin.
Œil pour œil,
une émission proposée par
Olivia Muller
et Tanguy Blum.
Peut-on voir autrement qu'avec ses yeux ? Quel rôle joue l'œil dans la perception du réel et dans la construction de l'imaginaire ? Pour y répondre, au fil des séquences qui vont suivre, nous vous livrons à une observation sonore.
Après avoir inspecté ce que l'on voit, nous rendrons visite à un guetteur de sémaphore dont la tâche principale est d'être l'œil de la mer.
Autour d'une table ronde, Jean-Pierre Brouillot, un aveugle voyageur, Serge Picot, directeur de recherche à l'Institut de la Vision, Emmanuelle Kahn, créatrice de lunettes, et Claire Denis, réalisatrice, échangeront ensuite sur cet objet qui les lie, l'œil.
Nous décortiquerons également le voyeurisme quotidien, puis nous demanderons à un médecin volontaire en garde à vue de nous dépeindre ce qu'il a vu durant ses gardes de nuit. Enfin, la plongée dans un salon de beauté sociale nous montrera l'importance du regard des autres et de son propre regard sur soi.
Adieu, voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose.
Au quotidien, il y a des choses qu'on aimerait ne plus jamais voir et d'autres qu'on rêverait de voir un jour ou l'autre.
Marre de voir les films à la télé toujours où on me tue. Il n'y a que ça.
Qu'est-ce que j'en ai marre de voir ? Je travaille dans la grande distribution et on jette la nourriture tous les jours.
Marre de voir les pubs un peu partout.
Les voitures, surtout sur le boulevard Saint-Germain, où ça fait beaucoup de bruit, où il y a une vraie nuisance à ce niveau-là.
Marre de voir la connerie. Je croyais, moi, il y en a de la connerie. À 55 ans, j'en ai vu.
La dernière chose que t'as vraiment regardée ?
Un escargot sur un arbre.
Quelle est la dernière chose que vous ayez vraiment pris le temps de regarder ?
Une éclipse de lune.
Le pont du roi du gros. Le pont du roi du gros.
C'était il n'y a pas longtemps, j'étais dans mon jardin et je regardais avec admiration une fourmi. Et puis bon, l'organisation des fourmis, bon, sans parler de discipline, hein, parce que tout est bien structuré chez elles, mais je sais pas, j'étais en contemplation devant la fourmi.
Mais moi, c'était au cours de mon dernier voyage dans un avion, la tête collée à l'hublot et à observer un peu cette nature, enfin ce vide autour de moi et à me poser la question, l'infini c'était quoi ? C'était, ouais, c'était la question que je me posais, quoi.
Qu'est-ce que vous rêveriez de voir et que vous n'avez jamais vu ?
Un espèce de spectacle naturel, inquiétant mais pas dangereux.
Qu'est-ce que vous rêveriez de voir et que vous n'avez jamais vu ?
L'intérieur de l'âme.
Spontanément comme ça, c'est les hammams de Syrie, voilà. Parce que c'est un jeu de lumière, et d'ombre et de lumière, et c'est magnifique, et voilà.
Qu'est-ce que j'aimerais voir et que je n'ai rien vu et... Bon, que la ville soit propre, surtout. Moins de voitures, plus de vélib et de vélos.
J'aimerais de voir des gens qui ont disparu. Des gens que j'admire, des écrivains qui me plaisent.
et qui sont morts il y a longtemps. Ben, je sais pas, ça me les rendrait réels. C'est un écrivain argentin qui s'appelle Julio Cortázar. Et lui, j'aimerais bien le voir.
Qu'est-ce que je n'ai jamais vu, j'aimerais voir. Attendez, je réfléchis. Un volcan en éruption, par exemple. Je sais pas, je trouve que la couleur est belle, le mouvement, le bruit.
Qu'est-ce que t'aimerais bien voir tout de suite, là, Manon ?
Une fille que j'ai rencontrée l'autre soir, une soirée, je sais pas son nom, j'ai juste vu et je souhaite la revoir, mais je sais pas où elle est, je sais pas comment elle s'appelle. Et voilà, cette fille-là. Elle est brune, elle a des yeux marrons, elle a un visage assez fin, un corps assez fin, elle est vraiment très belle et voilà.
Pour débuter cette exploration de la vue, nous vous proposons de revenir sur le principe fondateur de la radio qui est de voir en écoutant.
Nous avons commencé par traverser les couloirs de Radio France pour rencontrer Bertrand Amiel, bruiteur depuis 29 ans à la maison de la radio. Magicien des sons, il nous a raconté comment il crée des images avec des bruits.
Pour la radio, on est d'accord qu'on n'a pas d'image. Donc, je ne peux faire voir à quelqu'un par un son qu'une chose que cette personne a déjà entendue ou vue. C'est la Madeleine de Proust. La réminiscence de quelque chose qui a déjà été vécu, entendu, vu, touché, ressenti. Tous les sens sont en éveil. Tu ne peux faire penser ou voir quelque chose à quelqu'un qui n'a pas d'image en face de lui que s'il l'a connu, s'il l'a entendu, ou réellement ou fictivement. C'est-à-dire que tu peux l'avoir entendu quand tu étais petit, ou alors ne pas l'avoir vécu parce que tu étais d'une nouvelle génération, hein, mais par contre l'avoir entendu par le biais de la télévision, le cinéma ou quoi qu'est-ce. C'est-à-dire ça, ce que je vais faire là, par exemple, vraiment, si ça fonctionne, ça devrait parler à tout le monde. Voilà, si je fais ça... Normalement, si je dis rien à l'auditeur, déjà, il devrait se dire, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et puis, au cas où, parce que, bon, il suffit de rajouter des choses, des fois, hein, on peut confirmer. Et puis alors, si ça fait vraiment partie d'une dramatique, d'une fiction qu'on enregistre à la radio, il ne faut pas que l'auditeur, on le perturbe. Si d'un seul coup, une séquence, ça se passe dans cet élément-là qui, pour toi, est...
Un train ?
Oh, dis donc, c'est pas un TGV, on est d'accord. Donc déjà, on remonte très loin. Parce que ce bruit-là, on l'entend plus dans les trains maintenant. Mais dans cette dramatique, c'est, je sais pas, Agatha Christie, n'importe quoi, c'est primordial. Il faut absolument que ce soit dans un train et pas dans un TGV, dans un train qui soit vieux. Il faut absolument que l'auditeur, on le perturbe pas. On laisse son imagination fonctionner, mais il faut quand même diriger l'intention, d'accord ? Ne pas quitter le texte. Donc là, je vais essayer d'être de plus en plus précis. Je fais le roulement. Là, je peux faire le sifflet. Et puis, on peut aller plus loin. D'accord ? Et alors, en plus, là, j'ai donné l'indication de l'arrêt du train. Parce que si elle jette de vapeur, ça veut dire que le train s'arrête et tout ça. On est d'accord ? Voilà. Donc, là, maintenant, après, on peut... Moi, le bruitage, il permet de faire un train... comme ça, et pourtant, si on dit avec quoi j'ai fait ça, a priori, il n'y a aucune raison que l'auditeur se dise « Ah non, c'est un train ». Donc, vous qui m'enregistrez et qui regardez, moi, en général, j'essaie toujours de demander aux gens de ne pas regarder l'objet que je prends pour faire un son. Parce que le regard perturbe.
Tu peux dire avec quoi tu l'as fait le train ou c'est un secret ?
Il n'y a pas de secret maintenant. C'est vrai que c'est important, cette bouteille-là, qui est un dépoussiérant. Moi, je l'utilise pour faire le train, mais on peut faire aussi... Autre chose, je peux faire aussi. Alors là, c'est vraiment, ça prouve tout ce que je dis. J'ai pris quoi ? Ce dépoussiérant avec lequel j'ai fait le jet de vapeur du train, avec lequel on fait les ouvertures de portes de soucoupes volantes, les bus, tous ces trucs-là. Donc déjà, c'est le même son qui accompagnait d'autres sons. Fixe un autre bruit. Là, j'ai pris un verre avec un tout petit peu d'eau, j'ai simplement mis le dépoussiérant dedans. Si on a par exemple. Ça c'est. Voilà. Ça fait penser à quoi ?
Du feu ?
Voilà, du feu. Alors, ça peut être un feu de cheminée. Feu de cheminée ou un feu, et si je fais. Euh, D'accord, d'un seul coup, en rajoutant simplement un son qui normalement interpelle tout le monde, tu changes de lieu. On peut être dans un intérieur, un feu de cheminée, et d'un seul coup, tu passes d'un intérieur à un feu, si tu entends des grillons et une petite chouette, forcément, t'es en extérieur. Qu'il ait les yeux fermés ou pas, okay, il fait exactement comme quand il lit un livre. Il se fait des images dans sa tête, des choses qu'il ne voit pas avec ses yeux, il voit avec ses oreilles. C'est aussi simple que ça.
Alors, il faut préciser que le local de 5 mètres carrés dans lequel il nous a reçus et où il entrepose ses outils ressemble plus à une brocante qu'à un lieu de travail. Je précise également que les bruitages que vous avez entendus au cours de l'interview ont été faits à l'aide de plastique tournant sur une valise, d'un vieux balai, d'un sifflet ou encore d'un escargot.
À la radio, chaque bruit, chaque voix provoque chez l'auditeur une association d'images, un visage, un lieu ou un souvenir. Pour nous, il s'agira ce soir d'une couleur.
Nous nous sommes livrés à un jeu totalement arbitraire. Après avoir choisi certaines voix de radio passées et présentes, nous les avons écoutées, puis classées par couleur en fonction de l'image et de l'émotion produite par le timbre, l'intonation et la diction. Ce que l'on voit dans une voix est indescriptible. Nous avons donc choisi l'élément visuel le plus abstrait, la couleur, pour illustrer ces fragments radiophoniques.
Attaquons cette classification subjective par le jaune. Couleur du soleil, elle évoque aussi les tournesols, le maïs, les flammes. Pourquoi pas la poste, le soufre, les jonquilles, le miel et même l'équipe de football brésilienne. Nous l'avons associée à une voix terriblement jaune citron.
Vous nous aviez promis l'autre jour un tableau de vous et vous avez tenu parole, ce qui est merveilleux. Nous attendons un collage de Marie-Laure de Noailles, nous attendons une toile de Salvador Dali, une grande tenture de Mathieu et vous êtes la première personne à nous avoir apporté votre œuvre ce soir. Elle est là, on la voit de dos, c'est le suspense, le rideau est encore tombé.
La couleur
jaune.
Nous allons frapper les trois coups et vous allez nous présenter le cadeau que vous faites au Pop Club.
Vous avez certainement reconnu José Arthur, l'emblématique animateur du Pop Club sur France Inter de 1965 à 2005.
Arrêtons-nous ensuite sur le gris, celui du béton, du métal, des chapeaux de film noir, des loups, de la pierre, des requins, des orages, des souris. Il évoque le brouillard, la tristesse, l'élégance, l'aube en hiver, mais aussi et surtout l'ardoise des professeurs d'école. C'est peut-être pour cette raison que nous y avons associé cette voix.
Ce n'est pas la première fois que le roman contemporain nous amène à parler de Paris. Le thème de la ville, tour à tour décor, personnage ou fantasme, fait partie des obsessions de notre époque.
Couleur
le gris.
On comprend pourquoi il n'est nullement besoin d'insister sur les raisons qui font de ce monstre tentaculaire et dévorant le compagnon de nos jours et de nos nuits.
Il s'agit de Roger Vrigny qui anima l'émission Belles Lettres sur l'ORTF en 1955, puis la matinée littéraire et Lettres ouvertes sur France Culture.
Passons maintenant au violet. Le violet, c'est le lilas, l'améthyste, l'aubergine, la violette, la vache Milka aussi, la lavande, les évêques ou le raisin. Nous y avons associé deux voix. La première est plutôt couleur lavande et la seconde tire sur le pourpre.
12h10 autour, 12h30 information, 12h45 panorama de la semaine, 13h30 ailleurs. Bonjour. Pierre Barret et Jean-Noël Gurgan ont fait quelque chose d'extraordinaire.
La couleur.
Le violet plutôt couleur lavande.
Qui se passe au Moyen-Âge et un de leurs personnages devait faire dans leur livre le pèlerinage de Compostelle. Alors ils se sont dit, eh bien nous allons le faire nous-mêmes, nous allons le faire comme les pèlerins le faisaient au Moyen-Âge, c'est-à-dire à pied.
Mademoiselle Martin, bonjour. Heureux habitants de l'Aisne et des autres départements français, un nombre important d'entre vous vivent seuls. Célibataires, divorcés, veufs ou veuves, ils n'ont pas
la couleur,
le violet pourpre,
plus ou pas encore quelqu'un avec qui partager le huis clos de leur salle de bain.
Vous venez d'entendre Jacques Duchâteau, premier animateur du Panorama de France Culture, et Philippe Meyer à l'époque de ses chroniques matitudinales sur France Inter.
Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le rouge. Le rouge, c'est le sang, les coquelicots, le Père Noël, la grenadine, le piment, le communisme, évidemment, la dynamite, le diable, les pompiers, l'insolence. Nous y avons associé deux voix. La première est rouge vif, la seconde est plutôt rouge cerise.
C'est la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 158. Bienvenue à toi. Dans ce monde archiloufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, Nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 12 avril 2009, 11h05.
Couleur rouge vif.
Bonjour à toi, l'ami.
Monsieur Zinest, vous habitez Gramat, qui est à 10
km. 10 km, oui.
Et vous vous occupez du syndicat d'initiative.
Oui, monsieur.
Couleur rouge cerise.
Vous avez quel âge ?
75 ans.
75 ans. Et cette bonne santé, vous la devez à la bonne viande de Rocamadour. Voilà.
Il s'agissait des voix de Philippe Collin, à l'époque récente de Panique en Mangin Palace, et de Lucien Jeunesse, présentateur du jeu des 1000 francs de 1965 à 1995, tous les deux sur France Inter.
Il est grand temps maintenant de parler du vert, celui de la campagne, de la ciboulette, la marijuana, l'armée, la chlorophylle, l'islam, les serpents, les émeraudes, et surtout l'espoir. Nous l'avons associé à une voix qui est sans aucun doute vert pomme.
Non. Ne vous étonnez pas si vous entendez un chien aboyer par-ci par-là. Rappelez-vous que nous avons commencé notre voyage au bois de Boulogne, à l'heure de la promenade des chiens. Ce chien avait donc interrompu Léo Ferré au moment où il me disait que nous allions tenter en vain d'expliquer aux habitants arc-en-ciel d'une planète inventée ce que c'est que la droite et la gauche.
La couleur
du vert.
En l'écoutant, je me suis rappelé que j'avais commencé par lui demander quel genre de femme j'aurais dû être pour lui plaire et qui ne m'avait pas répondu.
Il s'agissait de la voix de Chris dans l'émission L'Oreille en coin sur France Inter en 1975.
C'est le bleu que nous allons désormais passer au crible de la radio. Le bleu, c'est le ciel, l'océan et la mer évidemment, le saphir, la police aussi, l'Europe, le Viagra, la fameuse note bleue des jazzmen, les myosotis, la noblesse ou encore Yves Klein. Nous l'associons à deux voix. La première est bleu marine, sans conteste, et la seconde se rapproche plus du bleu jean.
Radioscopie, Jacques Chancel.
Léon Citrone.
Léon Citrone, je suis ravi de vous accueillir. Très souvent dans le courrier, on m'a demandé quand invitez-vous Léon Citrone. Léon Citrone, je vais essayer...
Couleur...
Le bleu marine.
...de brosser votre portrait. Alors vous allez écouter.
Et vous vous brossez.
Et à la fin... Vous me direz ce que vous en pensez.
Bonsoir, je suis parti d'Evreux avec ma bonne vieille Renault à 21h30 hier soir. Je suis arrivé chez moi, boulevard Malesherbes à Paris, à 5h du matin. J'ai mis 7h30 pour accomplir 100 km.
Couleur
le bleu jean.
Pour être très précis, j'ai mis 6h30 pour effectuer les 40 derniers kilomètres. J'ai les boules.
Vous avez peut-être reconnu Jacques Chancel qui créa Radioscopie sur France Inter en 1968, suivi de Jean-Luc Hesse lors de l'émission Synergie qu'il anima de 1990 à 1999. Sur la même chaîne.
Autour du rose à présent. Les roses, ça évoque la panthère, les cochons, les bonbons bien sûr, l'érotisme, les poupées Barbie, le saumon, la chair, les radis, pourquoi pas la guimauve. Nous y avons associé cette voix.
En 1823, Stendhal écrivait. Depuis la mort de Napoléon, il s'est trouvé un autre homme dont on parle tous les jours, à Moscou comme à Londres, à Naples comme à Vienne, à Paris comme à Calcutta.
La couleur
du rose.
La gloire de cet homme ne connaît d'autres bornes que celle de la civilisation, c'est Rossini.
C'était la voix de Jacques Bourgeois, célèbre chroniqueur de la Tribune des critiques de disques sur les ondes de France Musique en 1963.
Poursuivons avant de conclure par la couleur orange. Celle des oranges donc, mais aussi des carottes, de la terre battue, des abricots, des incendies, d'Halloween, des tigres. Celle de la sagesse surtout. Nous y avons associé les deux voix suivantes.
Bref, et c'est comme ça, moi j'ai fait l'interview d'un détenu, un ancien détenu de la Maca d'Abidjan, je crois que c'était dans les années 80, au milieu des années 80, qui me dit « Hey, vieux père, tu sais quoi, moi que tu vois là, non, je suis le seul ancien détenu qui a un salon climatisé. Et j'ai fait toute ma fortune en prison. » Je dis, ah bon, comment ça? Tu sais, les repas qu'on nous sert là, il n'y a pas sel, il n'y a pas piment.
La couleur orange.
Ce soir, c'est vendredi. Donc, comme l'écrit Adèle chaque vendredi sur le site internet de l'émission, le programme est simple. Où que vous soyez, où que vous souhaitiez vous rendre, quoi que vous ayez à dire, vous avez la parole. Donc, c'est parti. Et nous ouvrons le bal avec Gérard. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir Eric.
Bienvenue dans l'émission Gérard.
Il s'agissait des voix de Soro Solo, coproducteur de L'Afrique Enchantée sur France Inter, et de celle d'Éric Lange à l'époque d'Allo la Planète, entre 2005 et 2010, sur la même chaîne.
Achevons cette expérience sensiblement périlleuse et radiophonique en écoutant une voix indéfinissable. Elle est inclassable, c'est la voix de Macha Béranger.
Eh bien, bonsoir, Macha Bérange avec vous jusqu'à 1h30 du matin. Je vous laisse le choix de votre parole au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. Allô.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, appelez-moi Macha, quel est votre prénom ?
Claude.
Oui, je vous écoute, Claude.
Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue.
Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, mais tout s'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, mais tout s'est foutu.
Why's I seen you? Why's I seen you? Why's I seen you?
Regarde-moi t'aimer.
Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux.
Je regarderai la ville passer, je n'oserai pas regarder ce qu'il y a dans tes yeux. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux?
Viens voir. Sans savoir.
Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Nous vous transportons à présent dans un univers visuel, celui de la mer, à la rencontre d'un métier où voir est essentiel dans un petit bâtiment singulier, un sémaphore. Alors selon la définition assez martiale du ministère de la Défense, un sémaphore est, je cite, « un établissement de la marine nationale implanté sur un point remarquable dans un but de surveillance maritime, aérienne et terrestre ». Plus poétiquement, c'est un œil ouvert sur l'océan ou sur la mer, fixé en permanence sur la ligne d'horizon. Les premiers sémaphores sont apparus le long des littoraux atlantiques et méditerranéens sous Napoléon Ier, puis furent fermés à la chute de l'Empire, avant de rouvrir à partir de 1860.
162 électro-sémaphores sont alors actifs sur les côtes françaises, mais aussi en Algérie et en Tunisie. Ces sémaphores ont deux fonctions, la communication avec les navires par signaux optiques et la transmission des messages grâce au télégraphe, puis grâce au Morse, dès 1866. 59 sémaphores sont encore en activité aujourd'hui.
Et ils fonctionnent grâce à des yeux humains, ceux des guetteurs, dont la tâche est d'observer nuit et jour la mer et de rendre compte de la moindre occurrence qui surgit dans leur champ de vision. Nous avons joint par téléphone Maître Grégory Serrurier, guetteur de la Marine nationale, dans le sémaphore de la Pointe Saint-Mathieu, dans le Finistère.
Implanté devant le phare de Saint-Mathieu et son ancienne abbaye en ruine, ce sémaphore est le dernier poste humain avant l'océan. On y accède par un escalier en colimaçon exigu de 92 marches. À 39 mètres au-dessus du niveau de la mer, on surplombe alors la mer d'Iroise. Le néophyte contemple un paysage sauvage de cartes postales, mais le guetteur, lui, voit d'autres choses.
Notre métier consiste avant tout à surveiller donc la zone qui nous appartient. C'est-à-dire que nous, ici, le secteur de surveillance part de l'avant-goulée de Brest dans notre est jusqu'au chenal du Four dans notre nord. Notre travail va être avant tout d'identifier le maximum de mobiles maritimes circulant dans le secteur. On va donc identifier essentiellement donc avec notre vue, quoi, donc à l'optique, visuelle. Et ensuite, pour les mobiles qui seront plus loin en distance, nous allons donc avoir différents supports tels le radar ou des systèmes plus évolués aujourd'hui informatiques qui vont nous permettre donc de détecter des pistes plus lointaines. Et tout ça dans le but donc de sécuriser en fait le secteur d'approche de Brest, quoi.
Pourquoi est-ce qu'on vous appelle un guetteur? Qu'est-ce que vous guettez?
Alors on nous appelle guetteur parce que notre fonction est donc de surveiller la mer. Donc guetteur, qui dit guetteur dit donc surveiller. Donc alors que ce sera principalement aux jumelles. Donc à la base, le guetteur à l'origine n'avait que comme outil de travail, n'avait que les jumelles pour exercer son métier. Mais c'est vrai que la vue reste l'outil principal pour nous, quoi. Donc on doit veiller au bon déroulement du trafic maritime, donc le trafic commercial, militaire et plaisance, qui est intense hein, dans ce secteur. Et aussi, on a la vocation de faire des observations météorologiques au profit de Météo France. Et donc, on surveille aussi toutes les évolutions climatologiques, et avec notre point de vue privilégié sur le secteur, on est vraiment les témoins privilégiés de tout ce qui peut se passer devant chez nous, quoi.
Et est-ce que vous avez vu au cours de votre carrière des choses particulières qui vous ont marqué?
Oui, dans ma carrière de sémaphoriste, oui, j'ai pu être témoin de scènes marquantes telles des naufrages, donc ça c'est quelque chose qui marque effectivement. Aussi des choses beaucoup plus légères telles des bandes de dauphins passant devant le sémaphore, donc ça c'est des choses qui sont plutôt sympas dans le métier. On voit tous les jours en fait, on voit des choses différentes, quoi, plus ou moins graves, mais heureusement on voit le plus souvent c'est des choses agréables, quoi.
Vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe si jamais il y a un naufrage que vous voyez?
Alors oui, donc nous sommes les yeux en fait du CROSS, hein, donc le CROSS c'est le centre régional opérationnel de la marine, donc de la sécurité en mer. Donc nous en fait on va être les témoins des scènes de naufrage, donc on va être les yeux du CROSS et on va relayer toutes les informations au CROSS qui lui va déployer les moyens pour aller intervenir en mer.
Non, sinon j'allais vous demander ce que vous voyez là devant vous tout de suite, parce que nous on est dans un studio fermé. Qu'est-ce que vous avez face à vous? Comment va la mer?
Alors face à moi, en fait, je vous décris brièvement ce que je vois. Donc sur mon ouest, j'ai une vue sur l'archipel de Wessant-Molène. Donc dans l'alignement, j'ai toutes les îles. Hein. J'ai l'île de Béniguet, Kémenes, Molène et tout au fond l'île de Wessant. Donc aujourd'hui, la visibilité est bonne, donc j'arrive à distinguer toutes les îles. Ensuite, plein ouest, j'ai vu sur le large. Donc là, l'horizon est bien net parce que la visibilité est bonne, malgré que le temps soit couvert. Et ensuite, en descendant vers le sud, je vois donc au loin la pointe du Raz, avec la chaussée de Saint, l'île de Saint. Et puis ensuite, on arrive sur la baie de Douarnenez, et en face de l'avant-goulet, vers les tas de pois, pointe du Toulinguet, et puis après, on rentre dans le goulet de Brest, quoi. Aujourd'hui, la visibilité étant très bonne, la vue est excellente, ouais. Bon, le plafond est bas, on n'a pas de pluie, mais le plafond nuageux est assez bas aujourd'hui.
Est-ce que vous arrivez à vous départir de vos habitudes de guetteur? Par exemple, vous vous promenez au bord de la mer ou vous êtes en bateau. Est-ce que forcément vous avez le réflexe de guetter, de voir ce qui se passe autour de vous à l'horizon?
Oui, c'est évident. Ouais. Quand effectivement, on garde un réflexe de, enfin, ce qu'on appelle nous l'œil du guetteur, c'est-à-dire que on est sans arrêt à la guet de tout ce qui peut se passer en mer, mais même ailleurs, hein, même en faisant, effectivement, en allant faire même mes courses en supermarché, je vais toujours garder cet œil curieux, en fait, de voir comment vont se dérouler les choses, puisqu'on est, nous sommes obligés d'anticiper tout ce qui va pouvoir se passer, quoi. Donc c'est vrai qu'on garde toujours cet œil de guetteur, là, qui est donc de surveiller et d'analyser tout ce qu'on voit, quoi.
Derrière la saleté s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou le téléphi au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et les cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent des guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Mais il nous faut regarder.
Barbara, il nous faut regarder, sur des paroles de Jacques Brel. Une chanson extraite de son premier album enregistré en studio, Barbara à l'écluse.
Allô, je suis chez la voyante?
Oui, monsieur.
Je ne dis pas que vous avez mal vu, au contraire. Vous avez trop bien vu. à mon avis. Besoin pour lui dire que vous n'étiez pas bien, que vous étiez. Que vous ne voyiez pas très clair ce jour-là, quoi.
Oui, il y a des moments, puis c'est vrai, il y a des moments vraiment clairs que d'autres. Mais écoutez, monsieur, même que j'aurais vu que vous étiez quelqu'un.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous lui avez fait les cartes ou quoi?
Mais écoutez, monsieur, je ne sais pas, parce que je ne vois pas qui vous voulez dire, je ne connais pas cette dame-là.
Ah bon, vous ne voyez pas?
C'est
embêtant.
On l'appelle Irma la voyante. Elle connaît des trucs merveilleux. Mais la police vigilante a vu mieux qu'elle dans son jeu. Depuis ce jour, sage et repentante, retirée dans une grande villa, elle revoit des choses ravissantes. On n'apprend plus rien chez Irma.
Donc, bonjour, madame la cartomancienne.
Ça y est, je vois que tu vas gagner beaucoup d'argent et que tu vas avoir beaucoup de succès très prochainement. Hein. Oui.
Beaucoup de succès en faisant le ménage?
Qu'est-ce que tu viens de faire, là?
C'est
tu viens de me fixer avec tes yeux.
Non, c'est
tu joues la menace.
Non, ce n'est pas le ménage.
Fais très attention, si tu me fixes, tu peux prendre feu immédiatement.
Pour donner du sens à la vue, nous avons réuni autour d'une table ronde quatre personnes qui n'ont a priori rien à voir, c'est le cas de le dire, les unes avec les autres.
Ils ont tous fait, ou presque, de la vue un métier et ils apportent chacun un regard vif et éclairant sur la vue. Alors Claire Denis, vous êtes cinéaste, après avoir assisté Jacques Rivette, Jim Jarmusch ou Wim Wenders, vous avez réalisé votre premier film Chocolat en 1988. S'en suivirent entre autres Sans fou la mort, Nénette et Bonnie, 35 Roms ou encore votre dernier film White Material avec Isabelle Huppert. Vous avez également présidé le jury Un certain regard au Festival de Cannes l'année dernière.
Serge Picot, vous êtes directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, et vous dirigez l'équipe de la transmission de l'information visuelle à l'Institut de la Vision, qui est ouvert en 2008 à Paris et qui réunit sur un même site la recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche industrielle. Vous travaillez entre autres sur les rétines artificielles.
Jean-Pierre Brouillot, vous êtes un grand voyageur extraordinaire, puisque vous êtes aveugle. Du Yémen au Mexique, en passant par le Népal, le Soudan ou l'Australie, vous parcourez le monde entier, seul ou avec votre fille, depuis 40 ans. Et vous racontez ces voyages dans un blog, L'illusion du handicap.
Enfin, Emmanuelle Kahn, vous êtes créatrice de mode, styliste, designer. Vous façonnez des vêtements et des accessoires, notamment des lunettes. Après avoir collaboré avec des marques comme Cacharel ou Missoni, vous avez lancé en 1969 votre propre marque, Emmanuelle Kahn Paris. Puis vous avez créé à partir de 1972 les lunettes qui vous ont rendu célèbre, dont la fameuse 80-80 et la 50-50, des modèles qu'on pourrait qualifier d'icônes de votre maison, ou encore la EK6000, inspirée par les premières stars hollywoodiennes. Alors pour commencer, une question très générale, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui s'adresse à vous tous. Quel est le rapport que vous entretenez dans votre quotidien avec la vue ? Claire Denis.
Peut-être que même le fait de faire des films ne me rend pas plus voyante. Quoi. J'ai pas l'impression que les films, ça passe par la vue. Pour moi, ça passe par une vision intérieure plutôt, ou un désir de montrer que quelque chose soit vu. Mais je peux pas dire que je vois mes films d'abord, je les ressens d'abord, voilà. Donc souvent on me dit, ah ben vous avez l'œil, mais en fait je crois pas du tout que ça a à voir avec la vue. C'est plutôt de la quelque chose qui vient de l'intérieur, ce qu'on a envie de montrer au cinéma.
Serge Picot, vous entretenez quel rapport avec la vue?
Pour moi, la vue c'est d'abord une énigme et une fascination, puisque j'essaye de comprendre comment nous voyons. Donc je suis un petit peu un commissaire de police qui essaye de comprendre comment on voit. Et puis en même temps, c'est un peu un rêve, puisque j'essaye de faire revoir des aveugles. Donc souvent, je dis qu'en tant que chercheur, je suis un peu un rêveur. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'actuellement, on vit un moment où le rêve devient réalité, puisque des aveugles se mettent à revoir. Donc c'est assez fascinant.
Emmanuelle Kahn, vous ?
Oui, la vue pour moi a été essentielle. Voir la rue, voir des expositions, voir et retransmettre. Il a fallu que j'aie la vue pour ça.
Jean-Pierre Brouillot.
Alors pour moi, la vue en tant qu'aveugle, c'est d'abord une mémoire parce que j'ai vu jusqu'à 16 ans. Ensuite, je dirais que voir n'est pas forcément lié aux yeux. Les yeux sont l'outil qui permettent d'identifier, de nommer les choses, mais avant tout, si on n'est pas présent derrière les yeux, la vue n'est pas là. Je veux dire, la personne qui regarde n'est contactée que si elle est consciente. Donc là, c'est peut-être une question vaste. Et je fais partie de ces... Enfin, en tout cas, je suis une personne qui, soi-disant, ne voit pas, mais je ne le vis pas tout à fait comme ça. Pour reconnaître que je ne vois pas, il faut que j'arrive à me comparer avec les autres qui voient. Et comme je suis j'ai totalement intégré ce que je vis aujourd'hui, et que je cherche pas à être quelqu'un d'autre, mais j'ai très souvent la sensation de ni voir ni ne pas voir, simplement d'être ce que je suis.
Et alors, deux questions encore assez directes. À quoi sert un œil? Et qu'attendez-vous de vos yeux, Serge Picot?
Alors, l'œil, d'abord, il sert effectivement à percevoir, au moins à faire transmettre des images de notre monde environnant. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie qui va en fait d'abord transformer la lumière en une activité électrique qui part au cerveau. On sait un petit peu maintenant quelles sont les images que en fait notre œil envoie au cerveau, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore très bien comment le cerveau reconstitue ces images, et on arrive très mal à modéliser ce qu'on voit d'ailleurs. C'est très difficile d'arriver à s'imaginer ce que vraiment on perçoit, parce qu'en fait, on ne perçoit pas la réalité du monde qui nous entoure.
Claire Denis.
Il y a quelque chose qui compte beaucoup pour moi aussi, c'est les yeux. Parce qu'il y a la vue, mais il y a aussi les yeux. Et tout à l'heure, je vous regardais, puis je vous souriais. Et comme vous ne me voyez pas, on regarde, on cherche le regard de l'autre.
Je précise juste pour nos auditeurs, quand vous disiez « je vous regardais », vous parliez à Jean-Pierre Brouillot.
Voilà.
Parce que la radio, on ne voit
voilà,
pas.
Voilà, parce que je suis en face de vous. Alors, je vous regardais, puis je vous ai souri.
Là, je sens très bien votre regard. Hein.
Voilà. Alors, bon, Et Après, un wagon de RER, c'est pas ça la sensation du film. La sensation du film, c'est l'amour d'un père pour sa fille et réciproquement. Et le wagon de RER, c'est son travail, c'est ce qui fait qu'il gagne sa vie. Donc ça a un sens dans la vie. Et donc du coup, rentrer dans un wagon de RER à la place du conducteur, c'est-à-dire à la place... Quand on est voyageur dans un wagon de RER, moi j'ai l'impression que je regarde sur le côté par les fenêtres défiler du paysage, mais je me considère pas vraiment comme une voyante de l'extérieur. Ce que je regarde, c'est les gens assis à côté de moi, les visages, et ce que je ressens des gens qui m'entourent. Je suis assez contemplative comme personne. Par contre, quand je suis dans la cabine du RER, pour comprendre comment on va filmer la position du conducteur du RER, là, c'est vraiment la place de quelqu'un qui doit voir tout, les signaux lumineux, les panneaux de signalisation. Donc il faut être extra voyant, quoi, extra concentré sur la vue. Et nous, on l'a ressenti en filmant. Ce travail du conducteur du train.
Ça veut dire que vous cherchez à rentrer dans le regard de... Quand vous filmez, vous cherchez à rentrer dans le regard
Jean-Pierre
Brouillot. Vous filmez.
Oui, c'est-à-dire que là, de les plans qu'on a fait à l'avant du RER, pour nous, c'était pas des plans contemplatifs, c'était des plans subjectifs. C'était comme si on était le personnage principal et qu'on regardait la voix en essayant de sentir... Ce qui est assez particulier du reste et qui rend les conducteurs de RER assez semblables, c'est-à-dire assez intérieurs, assez rêveurs, alors qu'ils doivent être très attentifs, c'est la sensation que les rails, on dit que tout est sur des rails, que tout est tracé. Et pourtant, ça oblige à regarder encore mieux, parce que cette sensation d'être happé par la voie ferrée, fait qu'il faut être encore plus attentif, qu'on peut pas se laisser emporter par la voie ferrée, quoi.
Emmanuel Kahn, vous, comment vous faites pour transformer un objet très commun, une paire de lunettes, en un accessoire de mode?
C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé à 18 ans, j'ai été myope tardivement, à 18 ans, et à force de bévues, j'allais embrasser des gens que je ne connaissais pas, j'appelais des taxis qui n'étaient pas des taxis, et je me retrouvais dans des situations un peu curieuses, je me suis décidée à porter des lunettes. C'est mon réel besoin de lunettes qui a été très positif pour savoir exactement ce que je voulais. J'avais même dessiné le contour de l'œil, enfin... parce que j'en avais besoin et parce que j'aimais les porter, qui a eu un tel succès.
Jean-Pierre Brouillot, ouais, c'est vrai qu'elles sont belles.
Ouais. Jean-Pierre Brouillot, moi je veux bien les toucher un jour.
Oui, bah. Tenez.
Mais c'est merveilleux ça. Elles ont une forme immense.
C'est-à-dire,
oui.
Moi, à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'était des lunettes cerclées et petites. Bon, ça a été la mode après, en 90, je sais pas. Celles-là, je les voulais grandes et surtout pas avec le monde rétréci.
Pour clôturer cette question, Jean-Pierre Brouillot, vous, qu'est-ce qui se passe derrière vos yeux, dans votre tête? Comment vous voyez les paysages? Il y a une phrase d'MC Solar, je me souviens que j'avais lu, qui est un rappeur qui m'avait frappé, qui disait « Le rap, c'est du cinéma pour aveugles ». Et je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu de cette phrase en lisant votre blog.
C'est du cinéma, oui, je ne connaissais pas cette phrase, mais c'est vrai dans le sens où c'est une sorte de bande dessinée de mots là, qui s'entrechoquent, qui se suivent. Donc je pense que dans la tête de quelqu'un qui ne voit pas, ça provoque une suite d'images.
Et vous, comment vous percevez un paysage? Parce que vous les décrivez, ces paysages, de manière très précise, très sensible.
Moi, je parle de ressenti. Hein. Toute ma vie est axée autour de ce travail de désubjectivation de l'attention, de nettoyer l'attention pour être là avec ce qui est. Après, je serais absolument incapable de décrire un paysage. Bon, évidemment, il y a quand même des sensations. Si je suis au sommet d'une montagne, où là, précisément, là, je me revois dans la sensation. Là, je me resitue quand j'étais au Yémen, sur des plateaux comme ça, à 3000, 3500 mètres, et juste au bord d'une falaise. À ce moment-là, effectivement, il y a des sensations qui viennent. L'air, la sensation de l'espace, quand on parle, par exemple, comme dans cette salle-là, précisément, la voix donne la mesure de l'espace. Donc je parlerai plutôt de mes sensations que de l'objet paysage.
Est-ce que la vue a un rapport particulier avec nos émotions, plus que les autres sens, Serge Picot ?
Disons que je pense que lorsqu'on le voit, on a tendance à neutraliser un peu tous nos autres sens et on voit par la vue. Mmh. Alors que ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on ne voit pas, on utilise tous nos autres sens pour acquérir des connaissances sur notre environnement. Et c'est d'ailleurs fabuleux d'entendre dire « ben là, je perçois que la pièce a un plafond très haut et j'arrive en fait à percevoir beaucoup d'éléments de la pièce par la manière dont en fait il y a un écho à ma voix ». Et c'est vrai que moi, je serais vraiment incapable d'avoir cette perception de la pièce parce que je la vois et parce que je ne cherche pas à acquérir ces connaissances par mon ouïe. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une différence de la manière dont on va percevoir notre environnement. Et lorsqu'on voit d'une certaine manière, on supprime un peu toutes ces informations qui peuvent nous venir de nos autres sens parce qu'on se laisse prédominer par la vision. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on discutait de la différence entre la télévision et la radio. Et c'est vrai que quand on regarde la télévision, on a tendance presque à ne plus écouter ce qui s'y dit et juste regarder les images qui défilent. Alors qu'à la radio, on va être beaucoup plus sensible aux messages que les personnes vont dire. C'est justement un peu toute la différence du terme « voir » lorsqu'on va voir avec ses yeux ou lorsqu'on va voir avec ses autres sens, puisqu'on va être capable, par les sens tactiles, par les sens l'audition, par l'odorat, d'arriver à obtenir plein d'informations sur le lieu où on est. Mais malheureusement, on perd un petit peu cette notion-là lorsqu'on regarde avec la vue. Et d'ailleurs, ce qui est assez... Enfin, même lorsqu'on perd la vue, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la zone du cortex qui normalement traite les informations visuelles, elle va être colonisée par les autres sens et en particulier par l'audition, ce qui fait qu'on va pouvoir en fait gérer beaucoup plus peut-être d'informations et être aussi beaucoup plus précis sur l'interprétation qu'on a des informations qui viennent par les autres sens. Et en fait, dans toutes nos émotions, justement, partout, en fait, viennent se combiner toutes les informations. Mais c'est vrai qu'après, on va privilégier certaines sur d'autres. Et actuellement, dans notre monde où la vue et si la communication visuelle est si importante, on va toujours tendance à avoir privilégié la vision.
Jean-Pierre Brouillot.
En fait, moi, je vois à quel point... Bon, je crois que j'ai dit, je ne me souviens plus, que je m'arrive d'animer des séminaires autour de la perception. C'est-à-dire que je propose aux gens de se bander les yeux ou de vivre totalement immergé dans le noir pendant un certain temps pour contacter d'autres... zone de perception. Voilà. Et ce que je ressens très souvent, c'est à quel point les gens sont accaparés par ce qu'ils regardent. Il m'arrive très souvent de parler avec quelqu'un et de voir qu'il n'est pas là, en fait. Oui, mécaniquement, il y a le pilote automatique qui est là, mais la personne n'est pas là, engagée complètement dans la relation. Et ça s'entend très très facilement. Quand je pose une question à des gens qui regardent la télévision, je m'aperçois à quel point ils sont pas du côté du spectateur, mais du côté de l'objet regardé. Et je trouve que le monde visuel, qui est l'expérience commune pour la plupart des gens, on n'est quand même pas tant d'aveugles que ça dans ce monde, c'est quand même intéressant de le quitter à certaines époques de sa vie, ou faire des petits exercices comme ça, individuellement, chez soi, aller dans sa salle de bain sans allumer la lumière et autres, pour essayer de ressentir le monde autrement. Parce qu'il me semble que dans la vie, moi, ça a été le moteur de mes 40 années de voyage, ça a été pour me transformer.
Je voulais juste rebondir sur le terme transformer, oui. Et je pense que ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'on apprend en permanence, aussi avec tous nos sens, et justement, peut-être que quand on voit... On n'apprend pas à utiliser au même niveau nos autres sens. Et je pense que quelque part, on cherche à connaître notre monde et on confie au sens la partie de cette connaissance ou une part de connaissance. Et c'est vrai que pour les voyants, ils ont tendance à confier un peu la globalité à la vision, alors que vous allez développer beaucoup plus les autres sens, puisque quelque part, la vision est à zéro.
En même temps, il y a une chose, si je puis dire, qui n'est pas contradictoire, mais quand même, je trouve que c'est un peu trop limitatif, parce qu'on en est presque à se dire que la vue, par exemple, en parlant beaucoup de télévision, ouais. On oublie qu'il y a d'autres formes d'expression par l'image que la télévision. La télévision, c'est des gens qui parlent et qu'on voit parler, qui débattent et qu'on peut voir chez soi, dans un petit rectangle. Quand il s'agit du cinéma, ou de la photographie, ou de la peinture, je crois qu'il s'agit tout à fait d'autre chose à ce moment-là. Au contraire, on peut être absorbé par une peinture ou par une photo, mais elle nous renvoie à nous-mêmes et elle met en route tous nos sens. C'est-à-dire que toute image n'est pas télévision. Réduire l'image à la télévision et l'opposer à la radio, c'est dommage parce que le cinéma ou la photo ou la peinture, c'est proposer une image qui est déjà finie, qui est déjà passée. On n'est pas dans l'instant même, on n'est pas en direct. Donc, elle apporte une temporalité. C'est la grosse différence entre le cinéma, la photographie, la peinture et la télévision. C'est ça qui fait qu'on est absorbé par la télévision. Alors qu'il y a tout un monde d'images, représentations du réel ou pas du reste, hein, qui renvoie à soi-même. Et je dis pas ça pour valoriser les voyants, hein, non pas du tout. Mais parce que la fabrication de films, c'est pas l'oblitération des autres sens. Et je pense que dans les films, on peut sentir les odeurs.
Pas du tout, d'autant plus que dans les films, il y a la partie aussi auditive.
Oui. On peut sentir les odeurs, vous voyez, parfois.
Je vais au cinéma. Hein. Je regarde très la télévision, pas, même pour dire jamais. Mais je vais au cinéma, oui.
Œil pour œil.
Œil pour œil. Une émission proposée par
Tanguy Blum
et Olivia Muller.
J'ai rencontré hier un aveugle qui traversait en souriant la rue où la foule qui beugle coulait rapide comme un torrent. Et tout surpris, je me suis dit, peut-être après tout sont-ils plus heureux que nous, ceux qui marchent paupières closes au milieu des gens et des choses. Ils ne voient pas, c'est vrai, le printemps refleurir, mais revanche suprême, jamais ils ne voient se flétrir les visages qu'ils aiment.
Je voulais faire interagir Serge Picot, qui est donc, je rappelle, chercheur sur la vue, et Jean-Pierre Brouillot, qui est aveugle ou non-voyant. Je sais pas, vous préférez qu'on dise aveugle ou non-voyant ?
Ça m'est absolument indifférent, ce sont des mots.
Qui est donc aveugle et non-voyant, qui est désigné par des mots qui ne le définissent pas.
Oui.
Et en fait, oui. Jean-Pierre Brouillot, vous êtes un peu pas la raison d'être, mais la raison de travailler de... Jean-Pierre Brouillot, la raison de travailler de Serge Picot. Mm-hmm. Quand vous vous rencontrez tous les deux, qu'est-ce que... Alors, c'est très abrupt comme question, parce que vous ne vous connaissez absolument pas, mais mm-hmm. qu'est-ce que vous vous dites l'un de l'autre ?
Mais j'ai envie de demander à Serge, ça vient direct. Hein. Qu'est-ce que c'est que de ne pas voir ? Vous arrivez à concevoir ça ?
Serge Picot.
Je pense que je conçois, mais j'avoue que en fait, je travaille déjà depuis plusieurs années avec en fait des associations de malvoyants dans l'AKP visuel. Et c'est vrai que j'ai envie d'éviter qu'on devienne malvoyant ou aveugle. Mmh. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec eux pour aussi montrer qu'on peut faire autre chose. J'ai travaillé beaucoup avec Gérard Muller, qui a fait par exemple des trajets en vélo, en binôme, en tandem. Mmh. Et puis, donc, en fait, je les ai accompagnés parfois pour montrer qu'en fait, on peut effectivement être malvoyant et avoir des problèmes visuels, mais qu'on peut continuer à vivre et faire des choses. Actuellement, lui, par exemple, il est parti faire le chemin de Compostelle seul, en solitaire, avec des GPS. Mmh. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut aussi arriver à vivre avec ce problème visuel et faire encore la vie. Et j'adore votre manière d'être, parce que c'est un peu celle que Gérard Müller démontre aussi, et je trouve ça assez fabuleux. Ceci dit, je trouve que aussi, si on peut redonner la vue aux aveugles, c'est aussi oui. leur redonner une certaine autonomie, du moins dans leur déplacement. Ça pourrait aussi avoir un intérêt et réouvrir des portes.
Mais je reviens à ma question initiale. Oui. Qu'est-ce que vous mettriez comme mot sur le fait de ne pas voir? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est que de ne pas voir? Est-ce que pour vous, c'est voir du noir, par exemple?
Enfin, je sais, de discussion avec José Sahel, le directeur de l'Institut de la Vision, que en fait, les patients aveugles ont ces espèces d'hallucinations. Hein, et souvent, ils ne veulent pas le dire parce que, en fait, ils ont peur d'être pris pour fous. Dire, bah voilà, j'ai des perceptions visuelles comme ça, et ils ont peur que leur entourage leur dise, bah, non seulement ils ont un problème visuel, mais en plus...
Oui, bon. Vous ne pensez pas que ce sont les fausses veines? Parce que vous avez des fausses veines quand vous êtes fatigué, quand vous appuyez sur vos globes oculaires et autres, vous voyez bien qu'il y a des lumières qui sont... en fait, c'est dans le cerveau que ça se produit, ça, dans la zone...
Oui, mais justement, il y a peut-être le cerveau qui crée des images, et c'est pas... Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, est-ce que... Quand vous voyez un paysage, est-ce que vous créez une image de ce paysage? Parce qu'à la limite, vous avez vu, donc quelque part dans votre cerveau, vous avez stocké des images, le paysage. Donc est-ce que vous rappelez ces images et vous reconfectionnez une image? Ou alors est-ce que, en fait, c'est juste par rapport à la perception?
Non, je reste avec mes sensations. C'est ce qui m'importe, c'est mon vrai vécu, ça. Le reste, ça va être juste du rafistolage, et de toute façon, qui ne me donnera pas le réel que vous voyez. Donc, si vous voulez, au début, quand j'étais aveugle, et que j'essayais que je ne voulais pas être aveugle, parce que ça a été toute une démarche, que je raconte là dans un livre qui devrait, j'espère, sortir à l'automne, j'ai vraiment refusé d'être aveugle, je me suis comparé aux autres très très longtemps, ce qui n'est plus du tout le cas. Et dans ces époques-là, qui étaient des époques de souffrance extrême, j'essayais de recréer l'univers des voyants. Et un jour, j'ai réalisé que c'était un naufrage permanent, que c'était absolument pas accessible et que c'était surtout pas souhaitable, parce que la vie m'avait placé là en tant qu'aveugle pour vivre ma vie d'aveugle, non pas pour essayer d'être autre chose que ce que je suis, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne reconstitue pas les paysages. De même que quand quelqu'un me raconte un tableau, par exemple, ben j'écoute ce qu'il me raconte, mais j'essaye absolument pas de... Parce que si trois personnes me racontent le même tableau, il n'y en a pas une qui va me raconter la même chose. Donc je sais très bien que j'aurai pas le tableau objectivement existant. Mais nous, donc je reconstitue pas. Non.
Nous, quand on lit un livre, on a tendance à se faire une image souvent de l'histoire, même un film de l'histoire.
Oui.
Donc on peut, enfin moi j'ai envie de vous demander, quand vous allez voir le film de Claire Denis, est-ce que vous reconstituez les images? Est-ce que vous avez votre propre film intérieur?
Je pense qu'on a toujours notre propre film, que l'on soit voyant ou autre, chacun vit dans son monde jusqu'à ce qu'on crève cette bulle de subjectivité. Mais ce que je voulais juste dire par rapport au fait de ne pas voir, c'est que quand on est aveugle, beaucoup de gens qui voient imaginent qu'un aveugle voit noir. Et un aveugle ne voit pas noir, il ne voit pas. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir, pas plus que quelqu'un qui n'a jamais, jamais vu. Il ne peut pas avoir accès aux couleurs. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à faire rentrer dans son monde des couleurs. Et ben c'est pareil, quand vous voyez, vous ne pouvez absolument pas concevoir que de ne pas voir. Si vous voulez toucher au plus proche l'expérience de ne pas voir, il faut que vous imaginiez, là tous qui êtes assis autour de cette table, que vous voyez maintenant, par exemple, avec votre orteil ou avec votre dos. Mais c'est ce que vit une personne qui ne voit pas. On n'a pas d'objet au bout de l'œil qui s'appellerait la nuit, par exemple. Vous, quand vous êtes dans le noir, vous dites « je ne vois pas », mais je dis que c'est faux. Vous voyez la nuit. Nous, on ne la voit pas, on n'a pas d'objet.
Un peu subjective maintenant, qu'est-ce que vous tous qui avez un rapport avec la vue, quelle est la dernière chose que vous avez vraiment pris le temps d'observer, Jean-Pierre Brouillot?
Quotidien.
Bah vous, à l'instant, là, quand vous parliez, vous me posiez une question. Alors, j'ai fait semblant de comprendre votre question parce que je suis jamais très sûr de comprendre ce qu'on me dit. Et puis j'ai aussi écouté comment vous la posiez, comment vous étiez là dans l'instant présent, détendu. Bon, voilà, j'ai essayé de ressentir un peu votre état d'être dans l'instant. Donc c'est ça la dernière chose qui n'est pas une chose, qui est vous, que j'ai... Voilà, parce que... En plus, je ne sais pas si je devrais répondre, parce que est-ce que je suis considéré comme quelqu'un qui voit ? Je voudrais faire une digression quand même. Vous savez que quand on est aveugle, on a accès à des tas d'informations visuelles, notamment ce qu'on appelle les phosphènes. Moi, il m'arrive d'être extrêmement dérangé dans mon monde de perception par un afflux, quand je suis très fatigué par exemple, par un afflux de lumière, de couleurs, de interne, qui fait que je me sens complètement brouillé dans ma réceptivité. Mon nerf optique, il fonctionne plus non plus. Non seulement j'ai pas mes yeux, ce sont des prothèses oculaires, mais le nerf optique est hypertrophié, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il fonctionne plus. Mais j'ai quand même cet afflux de couleurs qui me vient. Alors moi, je sais que ce sont des couleurs parce que j'ai vu jusqu'à 16 ans. Mais je pense qu'une personne qui n'a jamais vu, qui ne sait pas ce que ce sont des couleurs, doit aussi avoir ce type d'informations colorées qui lui viennent au cerveau. Et il doit être aussi perturbé par ça. Mais il peut pas le nommer parce qu'on ne peut nommer que ce qu'on connaît.
Emmanuel Kahn, vous, la dernière chose que vous avez pris le temps d'observer?
Je crois que c'est un tableau de Caillebotte. Là, en ce moment, il y a une exposition où il y a une table avec des verres, des carafes d'eau. C'est la représentation comme ça de ces objets transparents et faits d'une manière fabuleuse. Enfin, je suis restée quand même une demi-heure devant le tableau. Ouais.
Serge Picot.
J'avoue que je reste pas souvent à observer les choses. Peut-être la dernière chose, c'est le tableau de Georges Pompidou au Centre Beaubourg, où j'ai essayé de voir comment Vasarely avait reconstitué en fait le visage avec simplement des formes très simples et ces espèces de barres.
Claire Denis, la dernière chose que vous avez pris le temps d'observer ?
Là, j'arrive d'un voyage la nuit dans la carlingue de l'avion. Avec la veilleuse et puis les visages voisins de gens inconnus, enfin, mais qui sont très proches physiquement. Aucun visage n'est connu. Je reconnais rien, quoi. Je sais que c'est un avion, qu'il y a des hublots et tout, voilà. Mais j'ai une sorte d'insomnie cette nuit parce que, en fait, j'ai une angoisse de ce type de vision. J'ai l'impression que je suis dans un sarcophage un peu. À un moment, on est passé au-dessus de l'endroit où le vol, là, s'est écrasé quand on quitte le Brésil. Et il y a eu une énorme turbulence à ce moment-là, donc il a fallu attacher les ceintures et tout. Et c'est pas effrayant d'imaginer qu'il pourrait y avoir une catastrophe. Mais tout d'un coup, les visages voisins prennent... On se dit, c'est peut-être les derniers visages que je verrai, quoi. Donc je les ai regardés.
Regarde bien, petit, regarde bien.
J'ai vu la guerre, la victoire, étaient au bout de leur fusil. J'ai vu le sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris. Et j'ai vu Chica.
Regardez les s'envoler, c'est beau.
Regarde le printemps, regarde les abeilles, souviens-toi de novembre et vois comme la nature est belle. Regarde les amants, épouser le soleil, les choses sont plus fortes lorsqu'elles sont éternelles.
I'll look around.
Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
Tu vois, quand t'entends le son, c'est ce que tu vois. Tu vois, Bogota, Kinshasa, Rwanda. Tu vois, Abidjan, Beyrouth, Nigeria. Tu vois, Orly, Choisy, Vitry. Tu vois, les manguettes. Tu vois, Neuf. Tu vois,
tu vois,
tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois.
Nous allons dans cette nouvelle séquence regarder l'autre de manière détournée, en nous cachant presque.
Nous allons jouer les voyeurs.
Le voyeurisme, c'est une maladie urbaine qui touche les habitants des grandes, moyennes et petites villes, tous ceux devant qui s'animent d'autres vies à la tombée de la nuit. Des vies que l'on peut observer, disséquer, surprendre, ignorer, à la lumière des fenêtres voisines, de l'autre côté de la rue ou de la cour. Les immeubles sont le terreau de prédilection de cette maladie qui se cache au fond de chacun d'entre nous. Ils sont surtout un terrain de jeu où l'on peut voir l'intimité de l'autre tout en conservant l'anonymat.
Nous, d'un côté, on a la cour plantée de bouleaux. Et puis un petit peu plus loin, toujours sur la cour, on a donc les autres bâtiments. Et c'est vrai que le soir, moi, je trouve ça très beau, de voir les lumières s'allumer dans les maisons. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de coupes transversales dans les immeubles. Derrière une lumière, qu'est-ce qu'il y a ? Un drame, un amour, une tendresse. Mais on ne voit pas loin. Hein. Il y a quand même... on n'est pas devant une télé, non ?
Les couples... Les familles ou les individus se replient la nuit derrière des fenêtres qui s'allument une à une. Des vies mitoyennes se croisent et s'enchevêtrent, se heurtent, s'ignorent et glissent le plus souvent les unes sur les autres. Chacun prend alors conscience de certaines histoires parallèles. Une fois chez soi, débarrassé de la vie en société, on peut enfin pénétrer dans l'intimité de ses voisins en les regardant.
Oui, j'aime regarder, oui. J'aime regarder... C'est-à-dire regarder sans avoir l'air de regarder, tout en sachant que je sais qu'on sait que je regarde.
Le regard porté sur l'autre éponge bien sûr la curiosité, mais il suscite aussi l'envie d'en voir toujours plus. Dissimulé dans le noir si l'on veut rester invisible, ou au contraire en pleine lumière si l'on désire se montrer, on lorgne, on scrute, on épie. On regarde la famille d'en face en plein dîner. La voisine du dessus s'étalait de la crème hydratante sur les cuisses. L'étudiant d'à côté hurlait des mots silencieux au téléphone. Le retraité rachitique d'en bas fumait devant sa télévision. Sans jamais arriver à satiété, et surtout avec le seul soutien de l'œil qui devine plus qu'il ne voit.
Que fait-il ? Qu'écrit-il ? Je n'en sais toujours rien. Il faudrait une longue vue. Je n'en ai pas de longue vue. Je n'en veux pas. Je préfère veiller sans appareillage qui fausserait le jeu. Je vois ce qui se laisse voir, sans tricher et sans forcer l'histoire.
Une fois percé le bouclier de l'intimité, le voyeur ou la voyeuse peut s'installer dans une relation qui fait la part belle au fantasme et à l'imagination. Dès lors, les choses vues sont aussi rêvées.
J'imagine dans ces cas-là que l'autre... Ne me regarde pas ostensiblement, que lui aussi fait semblant de ne pas voir. Ça peut être un ouvrier qui travaille, donc on peut dire il travaille. En même temps, il peut faire semblant de travailler et regarder. Et c'est ce que j'imagine. J'imagine évidemment qu'il s'arrête de travailler, mais je ne veux pas le voir qu'il s'arrête de travailler. Je veux rien. D'ailleurs, je crois que je veux rien voir. Je veux rien voir.
Prenons néanmoins garde à ce que le rêve ne soit pas brisé par l'irruption de la réalité. Si la proximité épaissit le mystère, la rencontre avec la personne observée romprait la magie. Un coup de sonnette et le fil se casse. Un bonjour dans l'escalier et l'œil cruellement naturaliste matérialise la chimère.
Si cette personne venait à sonner chez moi, ce serait fini. Il n'y aurait plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir là. Ça n'a plus rien à voir.
L'observation voluptueuse des voisins questionne évidemment le rapport au corps et à la pudeur. L'intention de la personne regardée brouille les émotions et interroge inlassablement. Ce que je regarde m'est-il destiné ? Savent-ils que je peux les voir ? Sait-il que je l'observe ? Un jeu entre voisins se noue, un jeu parfois à sens unique, où le voyeurisme peut tourner au drame intime.
Je n'étais pas jalouse, pourtant... La première fois que je l'ai vu en tête-à-tête avec une femme, j'ai eu comme un pincement. Il était tard, 1h du matin, je dormais. J'ai été réveillée par des coups. C'était une musique dont les basses résonnaient dans la rue et qui venait d'en face. Il était là, assis sur un canapé, tout contre une femme, blonde, l'Islandaise. J'ai attendu aux aguets dans le noir. Rien ne se passait. Je me suis recouchée. Au matin, j'ai entrevu une forme sous les draps, d'où dépassait la tête de Ben, et une autre tête, blonde, accolée à la sienne. J'ai pleuré.
En milieu urbain, le voyeurisme est le rempart le plus facile contre la solitude. C'est la façon la plus simple de tromper l'ennui, vous venez de l'entendre, et c'est aussi le meilleur moyen d'en apprendre plus sur les inconnus qui vivent à quelques mètres de nous. Mais le sujet voyeur peut se transformer en objet vu. Il est alors difficile d'échapper à la dimension érotique du cache-cache visuel. À la vision d'un corps qui se dessine en contre-jour, succède vite le sentiment délicieux de ne pas vraiment savoir qui voit qui.
Je préfère être vu que voir.
Enfin, j'aime bien voir qu'on me voit.
À partir de là, il faut que je sois seule, absolument seule. Par exemple, se promener pas vêtue, dévêtue. Ou presque dévêtue. Ça peut aller plus loin, ça peut aller plus loin.
Attention cependant à ce que le piège ne se referme pas sur le voyeur trop curieux. Le voyeurisme non consenti est puni par la loi, cette masse d'articles aveugles briseuses de rêves. Quoi qu'il en soit, en matière de voyeurisme, il n'y a jamais de fumée sans feu.
J'ai fait ce trou pour écouter au mur. C'est l'explication qu'a donné ce Orinois de 27 ans, tout juste père de famille, lors de son arrestation jeudi soir à son domicile de Neuf-Brisach, près de Colmar. Fait à l'aide d'un tournevis dans la chambre à coucher du couple, ce Judas d'une largeur de 3 cm donnait un panorama complet sur la couche de ses voisins et leurs ébats amoureux. Une vue gâchée par un nuage de fumée qui passait par le dit orifice. Un nuage provoqué par les cigarettes qu'alignait le voyeur lors de ses séances. Relâché hier soir après une nuit placée en garde à vue, il comparaîtra le 31 janvier prochain pour atteinte à la vie privée et dégradation.
Avant de passer à notre prochaine séquence qui porte justement sur la garde à vue, laissons Bob Dylan nous raconter ce qu'il a vu. Après avoir demandé à son fils et à sa femme ce qu'eux ont vu, il nous fait part dans cette chanson de ses visions hallucinées. Un nouveau-né au milieu des loups, une autoroute de diamants avec personne dessus, une branche noire dégoulinante de sang, une chambre remplie d'hommes avec des marteaux saignants, 10 000 menteurs aux langues cassées, des fusils et des épées dans les mains d'enfants.
Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard. Rains are gonna fall.
Officier de chaise, c'est parce que je suis sur la chaise et j'en bouge pas. Donc il est en garde à vue depuis 13h15. Il n'a demandé aucun droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé d'avocat, il n'a pas demandé d'avoir un médecin, il n'a pas demandé à ce que sa famille soit prévenue.
En garde à vue, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, a l'œil. Il a l'œil posé sur le suspect, installé derrière une vitre transparente. Tout est fait pour être vu, le temps d'y voir plus clair, le temps d'observer, de surveiller et de contrôler.
Et ce n'est visiblement pas la même chose d'être vu seul ou accompagné. Jusqu'au mois d'avril dernier, quand un officier de police judiciaire souhaitait voir une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, il pouvait s'entretenir avec elle, les yeux dans les yeux, dans un face-à-face isolé des regards extérieurs.
Seulement, le caractère intimiste de cette mesure policière n'était pas vu d'un très bon œil. En réaction, le Conseil constitutionnel, conformément à une jurisprudence européenne, a décidé le 30 juillet 2010 que la personne retenue doit avoir le droit d'être vue et entendue en présence d'un avocat. La cellule de garde à vue n'est plus un lieu impénétrable. On commence à entrevoir ce qui s'y joue.
Vous l'avez arrêté ?
Non, non, c'est une simple garde à vue.
Je peux savoir pourquoi ?
Je ne suis pas sûr d'être obligé de vous répondre, mais
Il est peu probable que vous l'ignoriez.
J'ai habituellement le sens de l'humour, mais je trouve le vôtre détestable. Je traversais toute la ville pour voir mon mari et j'exige...
Non, vous n'avez rien à exiger, madame. Je peux m'excuser, je n'ai pas l'habitude de parler sur ce ton.
Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir mon mari?
Rien. Rien, madame, mis à part une seule petite chose. C'est lui qui ne veut pas vous voir.
Pourquoi vous êtes venu ici, puis comment ça s'est passé?
Ben, nos maris, ils ont dit qu'ils allaient aller au cinéma, qu'ils sont pas rentrés, alors on croyait qu'ils avaient été voir des poules.
Vous avez appris qu'ils étaient ici comment?
En téléphonant.
Comment? Parce qu'ils sont pas rentrés depuis hier soir. Et vous étiez vraiment inquiète ou vous doutiez un peu des choses?
Ben non, on n'était pas inquiète parce qu'on savait qu'ils allaient pour aller au cinéma.
Mais vous les avez vus, vos maris, ou vous pouvez
ben
pas
non,
les
voir?
Ils
ne veulent pas nous faire voir. Très gentil, les policiers.
On va essayer d'horreur comme ça tous les jours, on va pas en rajouter. Allons.
Bien.
On l'entend, vous l'entendez, les cellules de garde à vue ne sont pas encore des lieux de grande visibilité. Pour mieux comprendre ce qu'on peut y voir, nous avons demandé à un médecin devenu peintre qui a choisi d'exercer son métier au commissariat central de Lyon de nous raconter ce qu'il a pu observer pendant les gardes à vue. Comment ça se passe quand on est médecin en garde à vue? Donc on arrive dans le commissariat, enfin là où sont les gardes
voilà,
à vue.
Quand on arrive dans le commissariat, moi j'étais donc, on était 8 à Lyon à se relayer tous les soirs. Donc on est dans le commissariat, on nous amène un gardé à vue qui est menotté. Donc nous on demande à ce qu'il soit démenotté pour entrer dans notre bureau. Mais donc on fait pas de soins là, on est simplement, on dit que le gardé à vue justifie une hospitalisation, peut être gardée ou doit sortir éventuellement s'il a un traitement chez lui. Et puis par ailleurs, on voit les ivresses publiques manifestes aussi, ou ce qu'on appelle les IPM. Donc ça, qui sont vus obligatoirement, parce que c'est des gens qui sont en état d'ébriété soupçonnés, en fait, par les policiers, donc qui peuvent avoir aussi des troubles métaboliques, être dans un coma X, ou ces gens-là, on est obligé de les voir. Parce que il y a des risques de les garder sans qu'ils soient vus, bien sûr. La réquisition, en fait, elle émane de l'OPJ, mais c'est l'officier de police judiciaire, mais c'est à la demande du gardé à vue. La personne qui est retenue ou qui est arrêtée, elle a le droit de voir un avocat et un médecin. Donc on lui demande si elle le souhaite, et à ce moment-là, on réquisitionne un médecin, mais c'est à la demande du gardé à vue.
En quoi est-ce qu'à votre avis, le regard du médecin est différent de celui du policier pour un gardé à vue? C'est-à-dire que le regard que porte un médecin sur le gardé à vue...
Ah, ben nous, on a un regard de médecin, hein, comme vous le dites. Hein, c'est un regard spécifique. On voit des gens comme nous. Moi, j'ai travaillé en prison aussi. J'avais pas du tout l'arrière-pensée de quelqu'un qui avait commis un meurtre ou qui avait été un pédophile violent, qui avait commis les pires crimes. Je le voyais comme une personne, hein. Ça, jamais eu de difficulté pour voir les gens comme des personnes à part entière. Les policiers, je crois que quand il y a une plainte de maladie, ils pensent souvent que c'est de la comédie, hein. On est obligé de bien faire attention et de pas passer à côté d'une pathologie, hein. Ils se déchargent un peu de cette responsabilité sur le médecin, hein. Les gens, ils disent si le patient se dit, malade, incapable de supporter une garde à vue, bon, il prend pas de responsabilité, il nous l'envoie. Hein. C'est nous qui décidons. Donc le côté humain, c'est un peu nous qui l'assurons. Hein.
Vous exercez toujours?
Ben, j'exerce presque plus, non. Non, non. Et je suis peintre.
Si vous deviez, vous, décrire la vue, enfin, décrire la garde à vue, pardon, avec un regard d'artiste, vous feriez comment?
Ben, les couleurs, elles sont quand même assez grises, hein, gris, vert, c'est pas du coloré, hein, avec quelques touches de rouge, hein, parce qu'il y a du sang, hein. On voit l'homme dans tous ses états, et justement, peut-être le côté qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Et là, vous me demandiez des impressions visuelles, elles sont importantes, mais c'est un tout, là-bas, il y a des impressions visuelles, il y a des impressions sonores, il y a des cris, des bruits de porte, des gens qui se cognent la tête contre les cloisons ou qui donnent des coups de poing, les odeurs, et donc ça fait c'est un tout qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans un état de vigilance assez particulier. La vue, c'est pas, y a pas que ça, c'est au second plan, je crois.
Thank you.
Vision, concerto pour piano, Phil Glass.
Regard d'une femme sur elle-même. Comment se voit-elle face à un ami, un employeur, un amant ou une passante? S'observer et s'apprécier, est-ce que ça s'apprend? C'est en se rendant au salon Joséphine que nous avons pris conscience de l'importance du regard pour une femme.
Situé au cœur d'un quartier populaire, la Goutte d'Or à Paris, ce salon de beauté a intégré l'idée qu'une femme peut ne plus regarder de peur d'être vue et qu'une femme peut en venir à s'oublier si elle n'est pas regardée. Il intègre aussi la réalité. 80% des personnes pauvres sont des femmes, souvent au chômage, qui n'ont plus la force de se regarder dans un miroir, ni de prendre soin d'elles-mêmes. Le Salon Joséphine, c'est le premier salon de beauté sociale. L'idée de cet institut est simple, c'est de prendre soin des femmes qui n'ont plus confiance en elles.
Une cinquantaine de bénévoles, une esthéticienne, une styliste, une assistante sociale et un coiffeur réapprennent à ces femmes à être coquettes et les accompagnent avec acharnement dans leur recherche d'emploi. Le Salon Joséphine, c'est aussi et surtout une femme, Lucia Iracci, une grande coiffeuse, qui a pris le temps de regarder celles qui ne sont plus en vue, celles qui décidément ont oublié qu'elles savaient être belles.
Oui, la beauté est un droit, elle est vitale, en même titre que manger, dormir et toute autre chose. Elles en sont privées, elles se privent elles-mêmes en pensant que la beauté, on n'y a accès que parce qu'on va bien, parce qu'on a les moyens. Or, la beauté de tous les temps, elle a toujours fait partie de nous. On peut se faire belle sans pas grand-chose. Et pour ça, il faut retrouver les codes de ça. Parce que quand vous vous dites, vous vous culpabilisez, vous vous dites que d'abord, vous devez donner à manger à vos enfants, trouver un travail, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus vous vous dites ça, plus vous vous oubliez, et moins vous trouvez du travail, et moins vos enfants ont l'estime pour vous. Et moins vous en avez pour vous-même. Donc oui, c'est un droit vital, oui.
Est-ce que vous pensez qu'on peut s'oublier quand on n'est plus regardé?
On commence à s'oublier si on n'est pas regardé. Moi, je suis un peu contre le fait qu'on existe à travers l'autre, mais quand même, on existe à travers l'autre ES, c'est-à-dire les autres. Parce que le matin, quand vous vous levez, vous faites quoi? Vous ne regardez pas comment vous êtes pour aller dans la rue, aller acheter votre croissant ou aller travailler ou prendre votre café avec votre amoureux? Quand même, hein, on n'y va pas échevelé. Donc, l'un dans l'autre, on existe à travers l'autre, mais on existe à travers soi-même. Et si on s'oublie, l'autre ne nous voit plus. Et donc, il n'y a plus rien qui existe. On attend de nous qu'on soit quand même jolie. Voilà. Alors après, jolie, qu'est-ce que c'est? C'est pas spécialement esthétique, c'est pas spécialement plastique. C'est bêtement, on dit la beauté de l'intérieur, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous pouvez ressortir votre âme et votre intelligence et votre coquinerie que si vous vous sentez un tantinet jolie, exister. Et les femmes, si vous voulez, quand elles perdent leur travail, quand elles traversent une période où leur mari s'en va ou leur fiancé ou j'en sais trop rien, tout ça se casse la figure. Il y en a qui restent résilientes et qui se battent, mais il y en a des tonnes d'autres. C'est comme ça, on dit, il ne m'arrive que des malheurs. Et petit à petit, c'est la vraie spirale.
Et du coup, donc, vous avez installé ce salon de beauté sociale dans un quartier populaire à Paris, dans le 18e arrondissement, à Barbès. Donc votre clientèle, c'est une clientèle qui n'a pas, de manière générale, l'habitude ou les moyens plutôt de se faire belle, enfin aussi belle en tout cas que certaines franges de la société. Et comment est-ce que vous définiriez votre travail du coup sur cette clientèle, enfin votre aide plutôt? C'est plutôt un travail d'éducation, de rééducation, de réparation, ou je ne sais pas, tout en même temps?
Déjà, c'est un travail de réparation, un travail de restauration de la confiance, parce que ces femmes sont suivies, elles ne viennent pas qu'une fois. Donc on commence à restaurer leur regard, leur propre regard sur elles-mêmes, à essayer de faire en sorte qu'elles reprennent confiance pour qu'ensuite elles puissent se présenter. C'est toujours pour la réinsertion. On leur donne les codes, petit à petit, les codes de la vie. Donc c'est à travers la beauté, c'est à travers du sport, c'est à travers un vestiaire que vous voyez là. C'est à travers l'assistante sociale qui les guide vers ce à quoi ils ont droit. Il y a une assistante juridique. Donc si vous voulez, c'est vraiment des codes. Et petit à petit, c'est comme des papillons. Voilà, petit à petit, elles sortent de ça. Et on les guide jusqu'à même après réinsertion. Et vous savez, la première chose qu'elles disent quand on finit une séance, elles disent... je ne savais pas que j'étais belle. Voilà, ça résume ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. C'est ça, c'est qu'elle se sent oubliée. Pourquoi que les femmes ? Bah d'abord, je suis féministe. Voilà, je suis née féministe pour des tas de raisons. Mais je suis féministe sans moustache, je tiens à le dire. Je ne me bats pas contre les hommes. J'adore les hommes, donc je ne me bats pas contre les hommes, c'est contre la société. Pourquoi les femmes ? Bah parce que je trouve que les hommes, ils ont besoin de quoi ? Bah, si c'est facile à se raser la tête, à se laver le visage, vous ne vous maquillez pas, vous. Il suffit que vous ayez un peu de bagou et puis un peu de charme, et puis ça marche. Nous, les femmes, on nous demande quand même d'être un minimum élégante. Donc voilà, c'est pour ça. Et parce que la femme, est, pour moi, elle est aussi forte que fragile. Elle a quand même beaucoup de charges. Et ça, je pense que personne ne me contrariera. Et ça n'est pas encore contre les hommes. Un homme, il fait son métier. Il ne pense que à ça. Il est là toute la journée, il pense à son métier. Une femme, on lui demande d'être maman, maîtresse, amante, femme, et avoir quand même un rôle dans la société. Même s'il y a un papa, même si. Mais voilà, c'est pour toutes ces choses que je trouve que les femmes, il faut les aider. Et on a toujours ce regard différent. Oui, quand on va... Il y a une étude qui a été faite et c'est une chose qui est totalement comme ça, chimique. C'est que quand vous vous présentez un entretien, c'est moi, je suis chef d'entreprise et je le vois bien, alors que vous voyez le discours que je vous tiens. Le cerveau, la première chose qu'il enregistre à 80%, c'est physiquement comment vous êtes. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Moi, tout à l'heure, je suis rentrée et vous, si vous vous posez la question très sincèrement, on a regardé notre physique. D'accord ? Pas physique, je dis bêtises. Notre allure. Et ensuite, on discute. Et ensuite, on voit qui on est. Mais c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, moi, je vous regarde. Vous êtes en jean et basket. Ça ne va pas me déranger. Vous êtes un garçon. Très mignon, d'ailleurs. Donc, ça ne me dérange pas. Olivia, je la regarde. Je la vois. Et la première chose, je me suis dit... Oh, elle est mimi comme ça. Voilà, je regarde son vêtement et sa tête et ses cheveux et après je lui parle. Donc c'est normal. C'est la première chose qu'on enregistre, c'est vraiment qui on est. C'est vrai ou c'est faux ? Il faut arrêter de se dire que c'est une frivolité. Il faut arrêter ça. Ça, c'est des conneries. Et en plus de ça, c'est de l'hypocrisie. Quand je vivais en Italie, moi, j'ai toujours regardé les gens dans les yeux. Ça ne se fait pas en Italie du Sud. On ne regarde pas les gens, surtout quand on est une fille, une jeune fille. On ne regarde pas les gens. C'est effronté. Donc, tout le monde se regarde, mais tout le monde se regarde avec l'œil en bas. Mais tout le monde se voit. Donc, je pense que dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Et puis, bon, il est vrai qu'en France, ça a toujours été quand même le pays, comme l'Italie, un peu de la beauté, de l'élégance. Et donc, on se regarde, oui. Et je trouve ça bien de se regarder, d'ailleurs. Par contre, j'ajoute que regardez, quand on rencontre des gens qui vont mal dans la rue, on détourne le regard. Parce que ça nous dérange. Moi, je sais que parfois, je m'oblige à regarder et aller les voir parce que ça me fait peur. Ça nous renvoie quelque chose à nous-mêmes. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une histoire de regard sans arrêt, sans arrêt.
Est-ce que les femmes appréhendent leur entrée dans ce salon ?
Non, alors, elles n'ont pas peur. Elles rentrent timidement parce qu'elles se demandent... elles vont dans une association et elles arrivent et c'est un petit écrin très joli, parfumé, et voilà. La première fois qu'on commence à s'occuper d'elles, elles ne se regardent pas dans le miroir. Elles ont les yeux baissés. Et petit à petit, le regard se lève. Et en fait, quand on finit, elles prennent le miroir, elles se regardent dans les yeux. Normalement, on leur dit « regardez la nuque, regardez derrière le profil ». Elles prennent le miroir et la première chose qu'elles font, c'est croiser leur propre regard dans le miroir. Donc, vous voyez que la barrière du miroir disparaît, en fait, à partir du moment où vous vous sentez bien.
Œil pour œil.
Une émission proposée par
Tanguy Blum
et Olivia Muet.
Les cinq sens.
C'était une émission réalisée par Olivier Guérin, accompagnée à la technique par Pierre Monteil et facilitée par le travail des archivistes de l'INA.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 août 2011 dans la série Les Cinq Sens. Et à noter donc cette histoire de la radio, ouvrez grand vos oreilles chez Sylvana Éditorial, Musée des Arts et Métiers, Radio France.
Losing my mind, seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. In between, what I find is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing. Just no good, it isn't like you do. Once in a love and it was a gas. Soon turned out I had a heart of glass. Love's gone behind. Lost inside a terrible illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside. We could have made it cruising, yeah. Love's gone behind.